Bon, je vais commencer par des banalités. Probablement, ceux qui ont l'habitude d'entendre une partie de mes enseignements, vont se dire, mais ils se répètent, mais c'est quand même important. Vous connaissez la création du monde, en fait. Bon, dans la création du monde, eh bien, il y a les 7 jours de la création. Bon, très bien, les 7 jours de la création, ça décrit quoi? Ça décrit un plan. Et dans ce plan, il y a à chaque fois un autre projet. Il y a en fait, on pourrait parler de 7 projets différents qui se cumulent l'un l'autre, qui constituent ce qu'on appelle les 7 jours de la création. Mais je voudrais m'arrêter sur un petit détail qui est que dans chaque jour de la création, vous avez 4 phases. En gros, grosso modo, vous avez 4 phases qui sont le projet, la réalisation, le jugement et la récapitulation. Alors, pour que ce soit bien clair, parce que je propose qu'à la fin de notre étude, il y ait également une interrogation écrite, donc je reviens sur les 4 éléments. Chaque jour de la création est composé, grosso modo, de 4 éléments qui sont le projet, la réalisation, le jugement, la récapitulation. Pour donner un exemple, que la lumière soit. C'est un projet. Et la lumière fut, c'est une réalisation. Et Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière de l'obscurité, c'est un jugement. Il fut soir, il fut matin, jour 1. Ça, c'est une récapitulation. Pour l'instant, je voudrais, disons, me concentrer uniquement sur la 4e partie, la plus banale, la plus ennuyeuse, c'est celle de la récapitulation. En effet, à la fin du premier jour, la Torah nous dit « Vayi ha'erev, vayi boker yom echad, il fut soir, il fut matin, jour 1. » Le deuxième jour, la Torah nous dit « Il fut soir, il fut matin, jour 2e. » Vous devinez tout de suite, pour le troisième, la Torah dit « Il fut soir, il fut matin, jour 3e. » Et puis après, « Il fut jour, matin, jour 4e, 5e. » À la fin du premier chapitre, la Torah dit, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bien, et il fut soir, il fut matin, jour le 6e, Yom HaShishi, vous avez ici donc une particularité, et puis après la Torah continue. Elle entre directement dans le 7e jour. Il fut soir, il fut, pardon. Le ciel et la terre et tout ce qui les remplit ont été achevés. Non. Elohim cessa pendant le 7e jour tout son ouvrage qu'il avait fait. Et Elohim a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Car en ce jour, il avait cessé toute l'œuvre qu'il avait commencé à faire pour achever. Il fut soir, il fut matin, 7e jour. Voilà, c'est comme ça que c'est dit. Donc, si on récapitule, chaque jour finit par un verset qui dit il fut soir, il fut matin, jour un tel, et le 7e jour, j'ai inventé un verset qui n'existe pas. Le verset qui n'existe pas, c'est il fut soir, il fut matin, 7e jour. Or, la Torah ne le dit pas. Ce qui est frustrant. On s'attendrait qu'à la fin du 7e jour, il fût écrit il fut soir, il fut matin, 7e jour. À la place, vous avez Sabri Maranam. À la place, la Torah ne dit rien. Et donc, pour poursuivre ici à l'enseignement de Manitou, cela veut dire que le 7e jour n'est pas achevé. Ça veut dire que tout ce qui vient après dans la Torah, c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire humaine, et cette histoire humaine est à cadrer dans ce qu'on appelle le 7e jour de la création. C'est-à-dire que nous sommes encore tous dans le 7e jour. C'est-à-dire que nous sommes dans cette réalité, dans cette dimension de la création, où Dieu ne fait rien, il cesse de travailler, il cesse de créer. Alors ça, c'est, disons, une définition, on pourrait dire, par la négation. Mais Si Dieu ne fait rien, alors ça veut dire quand même que quelqu'un d'autre doit travailler. Et sans rentrer trop dans la profondeur des versets, on n'a pas le temps de le faire maintenant, eh bien, celui qui va travailler, c'est l'homme. Mais quel est son travail? C'est là que nous posons la question de savoir quel est le projet du septième jour. Eh bien, le projet du septième jour, il est écrit en toutes lettres dans la Torah. Vaivarech Elohim et Yomashi Vaikedeshoto, Dieu a béni le septième jour et l'a sanctifié. Le terme de sainteté, sanctification, la racine trinitaire Kadosh, Kuf Dalechin, apparaît pour la première fois dans la Torah. Et cela voudrait donc dire qu'il y a ici une finalité qui est imposée à l'homme, qui est proposée à l'homme, si vous voulez, qui est d'accéder à la sainteté. D'ailleurs, tout cela est dit de manière très claire dans la Torah, dans le livre de Vaïkra, au chapitre 19. D'aber el kol adat ben Israël, les morts kedoshim tiyou, parle à toute l'assemblée d'Israël en leur disant, vous serez saints. Mais la suite, c'est ki kadosh ani, parce que moi je suis saint. Ce qui est extrêmement surprenant. Si j'ai un ami qui m'est très cher et qui me dit, étant donné que j'ai les yeux verts, il faut que toi aussi tu aies les yeux verts. Non, pas du tout. Toi, tu as les yeux verts, moi j'aurai les yeux de la couleur que je veux. Et pourtant, la Torah dit, vous serez saints parce que je suis saint. C'est une manière de dire que le Créateur s'adresse à l'homme en lui disant, je suis le seul pour l'instant à être saint. Je voudrais sortir de ma solitude. Et donc, j'ai besoin d'autres saints pour avoir des relations de dialogue avec eux. On peut dire que la finalité donc du septième jour, c'est de créer un cadre dans lequel le créateur et la créature peuvent se rencontrer. Le jour où ça sera réalisé, alors la Torah dira, et ils furent saints. Et Dieu vit que c'était bon. Il fut soir, il fut matin, septième jour. Et alors commencera le huitième. Le huitième jour viendra après le septième jour. Tout cela est très joli, mais c'est contredit par un autre texte de la Torah. Parce qu'en effet, la Torah nous dit que le huitième jour a commencé. Elle le dit en toutes lettres, dans le livre de Vaïkra au chapitre 9. Elle dit, Vayehi Bayom Hashemini, et ce fut le huitième jour. Donc, il y a ici un problème. Le huitième jour a commencé, mais le septième jour n'est pas achevé. C'est quoi cette histoire du huitième jour qui a commencé? Mais c'est lors de l'inauguration du tabernacle dans le désert. La première fois qu'il y a eu une sorte de Beth Amikdash, de temple. Un lieu dans lequel la rencontre entre le Créateur et la créature est possible. Donc, on peut dire que c'est le lieu du huitième jour. En fait, c'est comme si c'était une ambassade du huitième jour. C'est-à-dire, si je veux savoir de quoi aura l'air le monde quand on aura accédé au huitième jour de la création, je n'ai qu'à rentrer dans le Beth Amikdash, dans le temple. Là-bas, je vois une réalité tout à fait différente de celle dans laquelle j'ai l'habitude de vivre. C'est la réalité du huitième jour. Et puis, quand je sors du Beth Amikdash, je reviens dans le septième jour. C'est-à-dire dans un lieu où il y a un écran entre la créature et le créateur. Cet écran n'existe pas dans le Beth Amikdash. En effet, vous n'avez qu'à voir ce que dit Rashi sur le verset Ve'asuli Mikdash. Ils me feront un sanctuaire. Que dit Rashi? C'est quoi? Ils me feront un sanctuaire. Bayit shel Kedusha, une résidence pour la sainteté. C'est-à-dire le lieu où la rencontre entre le Créateur et la créature est possible, c'est ça, le Beth Amikdash. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais il y a d'autres dimensions dans lesquelles on peut rencontrer le Créateur. Il y a également l'espace, non, il y a le temps et l'homme. En effet, nous avons une nation sainte en l'espace, là où on s'attendrait à ne pas le rencontrer. Et donc, je commence maintenant un peu mieux à comprendre. Ce que dit le Midrash, il y a un Midrash absolument surprenant dans le Yalkut Shimoni. Le Yalkut Shimoni dit la chose suivante. Alors, pour ceux qui sont rationalistes, ça ne marchera pas. D'ailleurs, pour moi non plus. Mais le Midrash dit ceci. avant la création du monde, c'est déjà un terme qui ne veut rien dire sur le plan philosophique, il n'y a pas de avant le temps. Avant la création du monde, Dieu a construit une soukha dans le mont du temple, Be'ar HaBa'it. Alors, à nouveau, c'est absurde, il ne peut pas y avoir de mont du temple avant la création du monde. Et puis, le Midrash, qui n'a peur de rien, continue en disant « Ve'aya nichnas ba » et Dieu rentrait dans cette soukha, alors là, c'est l'absurdité totale, « Umit palel » et il priait. Et il disait « Que ce soit un effet de ma volonté » parce que à qui va-t-il prier si ce n'est à lui-même ? Donc, Dieu priait à lui-même « She'ivnu li banai ba'id bamakomaze » que mes enfants me construisent une résidence dans ce lieu. Alors maintenant, si je fais abstraction de toutes les difficultés métaphysiques et logiques que ça présente, je veux ressortir de ça un point. C'est comme si, le Midrash dit que tout se passe comme si le Créateur n'était intéressé que par une seule chose. Toute l'œuvre de la création, c'est justement pour créer ce lieu de rencontre. Je vais peut-être faire comprendre ça sur le plan, si vous voulez, littéraire. Imaginez que vous donnez la Torah, les 5 rouleaux de la Torah, les Bereshit, Shemot, Sefer, vous les donnez à lire à quelqu'un qui n'a jamais lu la Torah. Alors, vous lui dites, voilà, tu vas lire ça, dans une semaine, quand tu auras fini de lire tout ça, tu me diras, qu'est-ce que tu as lu ? Alors, donc, après une semaine, vient le personnage, il dit, ben voilà, j'ai lu que Dieu a créé le monde pour finalement créer l'homme, pour que l'humanité se forme en forme de nation, et que Dieu a choisi parmi toutes les nations une nation qui lui a fait passer une épreuve, l'esclavage en Égypte, afin qu'il sorte d'Égypte pour entrer en Eretz Israël et construire le Beth Amikdash. Si on voit sur le plan, disons, littéraire, c'est ça que la Torah dit. Maintenant, je peux dire à ce monsieur qui a lu toute la Torah et qui a si bien résumé, je lui dis, ton résumé est un peu trop long, est-ce que tu peux aller plus court ? Il me dira, bien sûr, Dieu veut le Beth Amikdash. Vous comprenez que ça focalise tout, le Beth Amikdash n'est pas un commandement parmi les commandements ou une grande synagogue de haut niveau. C'est quelque chose d'autre, c'est la réalisation au niveau cosmique du projet de la création. Ce qui explique pourquoi ce sujet est en soi extrêmement brûlant et délicat, sensible. Mais je veux revenir donc à ce que je disais tout à l'heure. Nous avons donc le 8e jour, en plein 7e jour, c'est-à-dire nous autres, les hommes, nous vivons dans le 7e jour, dans l'histoire, mais nous avons au milieu de nous un 8e jour. Alors, on pourrait dire à la limite que le Beth Amikdash est un corps étranger dans l'organisme du monde. Alors comment s'arranger avec une chose pareille ? C'est très simple. Un corps étranger dans un organisme, ce qui lui arrive, c'est quoi ? Bien, j'entends déjà vos réponses. Il est rejeté. Il est extrait, éjecté en dehors de l'organisme. Ce qui vous explique pourquoi, de temps en temps, le Beth Amikdash est détruit. Parce que le Maharal de Prague, très étonné, dit « Si le Beth Amikdash, c'est si important, alors comment peut-il être détruit de temps en temps ? Et si le monde peut tenir sans le Beth Amikdash, alors à quoi sert le Beth Amikdash ?» Réponse du Maharal de Prague, c'est très simple. Le Beth Amikdash, il est indispensable. Et comment est-ce que le monde tient quand il n'y a pas de Beth Amikdash ? C'est très simple. C'est parce qu'il y en a eu un et qu'il y en aura un autre. C'est comme dans un saut, comme ça, entre une falaise et une autre. Alors, vous prenez vos forces sur la première falaise et vous êtes attiré par la prochaine falaise, au-dessus du Grand Canyon. C'est ça la nécessité de l'existence du Beth Amikdash. Maintenant, le Beth Amikdash est contraire à l'ordre de la nature. La nature veut l'uniformité, elle ne veut pas un lieu saint. Mais le Beth Amikdash est indispensable sur le plan des valeurs, sur le plan moral. Il faut qu'il y ait une relation entre Dieu et les hommes. Et donc, ça veut dire que d'une part, le Beth Amikdash doit être construit, qu'il doit être également détruit. jusqu'au moment où le Beth Amikdash et le monde vont se réconcilier. Et donc, ça veut dire quand on arrive au huitième jour, c'est le temps où le monde et le Mikdash, finalement, ne forment qu'une seule et même réalité.
Alors, je vais vous poser des choses, est-ce que vous pouvez la répéter pour que les gens entendent?
D'accord.
Est-ce que vous pouvez traduire Beth Amikdash?
Est-ce que je peux traduire, c'est ce que me demande David Altar, est-ce que je peux traduire le terme Beth Amikdash? Beth Amikdash, ça veut dire le temple, ou plus précisément, le lieu où la sainteté est possible. Beth, Bait, c'est la maison, Mikdash, de la sainteté. Et donc, pour raccourcir, nous allons dire le temple. J'ai dit Beth Amikdash en hébreu parce que je suppose que la majorité de nos spectateurs savent de quoi je parle. D'accord? Mais en fait, je pense que la question est pertinente. Il s'agit ici donc du temple ou du sanctuaire, quel que soit le terme employé. Et donc, pour revenir à nos moutons, donc le Beth Amikdash, c'est la seule mitzvah dans la Torah où officiellement il y a une évolution sur le plan architectural. L'architecture du tabernacle dans le désert n'est pas la même que celle du premier temple, ni celle du deuxième, ni celle du troisième qui sera construit un jour. Parce que il y a une accoutumance du monde à la présence du monde supérieur dans le monde inférieur, si vous voulez. Et cette accoutumance fait qu'il y a une évolution. Il y a eu d'ailleurs une civilisation en Europe où on a pensé, il y a presque 250 ans, faire une révolution universelle. Ça s'appelait la Révolution française. Et à un moment de la Révolution, il y a eu ce qu'on appelle le culte de l'être suprême. Alors, le culte de l'être suprême, c'était, on a autorisé Dieu à exister. Il a cessé d'être hors la loi. L'Assemblée nationale, la Convention, a décidé que Dieu existe. C'est très sympathique. Et Dieu était très content de pouvoir enfin être légal. Et comme le mot « Dieu » faisait trop religieux, trop chrétien, alors on a employé un autre terme, « l'être suprême ». Et ce qui a été déclaré donc par l'Assemblée, c'est que l'être suprême se manifeste à travers la vertu, ses attributs sont la vertu et la liberté, et que son sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire, c'est une intuition qui était peut-être un peu trop rapidement appliquée, étant donné que ça a coûté la tête à beaucoup de personnes. Mais en tout cas, l'idée était que viendrait un temps où le temple serait le monde. Et ça explique également l'intuition qu'ont eu les conventionnels quand ils ont décidé de supprimer la semaine et de la transformer en décade. C'est-à-dire, on a passé le septième jour, on arrive dans le huitième. Alors évidemment, quand une grande idée est mal placée, ça devient une catastrophe. Mais en tout cas, ça veut dire que cette idée que le monde et le temple vont un jour se réunir était déjà présente dans l'intuition de certaines personnes dans l'histoire. Maintenant, le problème est à quoi sert vraiment le temple? Alors, on a été très rapide, ça voudrait donc dire ce lieu de rencontre. Ça veut dire également que ce n'est pas seulement une nécessité, on pourrait dire un besoin de Dieu, de rencontrer l'homme. C'est également une nécessité pour l'homme de rencontrer le Créateur. Pourquoi? Parce qu'on peut, disons, se représenter le monde comme étant une grande maison. Et cette maison est habitée par des hommes. Et sur la maison, il y a un toit. Alors, le toit est très important parce que le toit protège. C'est qu'il y a une protection qui fait que l'homme ne rencontre pas directement la divinité. Parce que par rapport à l'infini, moi qui suis un être fini et limité, je ne peux pas tenir. Donc, on peut dire grâce à Dieu, il y a des écrans entre l'homme et Dieu. Mais ces écrans donnent également le sentiment d'un monde fermé sur lui-même. C'est le monde, on pourrait dire à la limite, de certains philosophes qui essayent de tout expliquer comme étant un système fermé. Je pense par exemple ici à Spinoza, qui a la prétention de pouvoir tout expliquer par son système. Et c'est étouffant. Le monde a besoin également de respiration de l'infini. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une cheminée. Cette cheminée, c'est un rapport qu'entretient la maison avec, c'est au-dessus de la maison, qu'entretient l'humanité avec l'infini. Et ceux qui sont responsables de cette cheminée, eh bien, ce sont les enfants d'Israël. C'est ça leur rôle. Nous sommes des ramoneurs du bon Dieu. Ce qui fait que nous ne sommes pas toujours très propres. Ça, c'est normal quand on est ramoneur. Et on peut dire le lieu de prédilection de cette ouverture, eh bien, c'est le temple. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est tellement important. C'est un intérêt du Créateur et c'est un intérêt de la créature de pouvoir enfin se rencontrer. Et on peut dire que ça fait partie, si vous voulez, du règlement de tous les conflits de civilisation que nous vivons actuellement. En effet, les grands conflits entre les civilisations, entre l'Occident et l'Islam, par exemple, c'est de savoir qui est au centre de quoi. Est-ce que c'est l'homme qui est le centre de l'être? C'est ce que enseigne l'Occident à la suite de la philosophie grecque. Ou bien est-ce que c'est Dieu qui est au centre de tout, comme l'enseigne l'Islam? Et vous comprenez que quand il y a une confrontation entre ces deux civilisations, le choc est inévitable, à moins de se mettre à l'école d'Israël. On apprend que chez les enfants d'Israël, on comprend que ce n'est pas l'homme qui est au centre du monde, mais non pas Dieu non plus. C'est le dialogue entre eux qui est le sujet du monde. La rencontre entre le Créateur et la créature, et ça se passe à tous les niveaux. Si vous voulez, le temple de Jérusalem n'est finalement que l'expression de la réussite de ce projet. Ce qui explique pourquoi, c'est d'une certaine manière, c'est énorme, c'est immense. Mais pourquoi d'un autre côté, c'est si difficile à réaliser? Parce que c'est vrai qu'il faut construire le Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous nous lamentons le jour de Tisha B'Av, parce que le temple n'est toujours pas reconstruit. Pas seulement à cause des malheurs qui ont accompagné sa destruction. Il suffit de lire d'ailleurs les récits de Flavius Joseph sur la destruction du temple. Il y a de quoi effectivement s'arracher les cheveux. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort. C'est le désir d'amener la présence du Créateur parmi les hommes. Et cela demande une sorte de réconciliation des hommes entre eux. Par exemple, il y a aujourd'hui, vous savez, dans la liste des 613 commandements de Maïmonide, alors un des commandements, c'est de construire un temple, à Jérusalem en particulier. Et s'il y a un commandement de construire le temple, alors pourquoi est-ce que personne ne le construit? Ah bien, parce qu'il faut l'accord de tout le monde. C'est-à-dire, le commandement de construire le temple, c'est un commandement collectif. Et donc, il concerne le gouvernement israélien et le Parlement. Viendra un jour, il y aura une loi fondamentale à la Knesset pour la construction du Beth Amikdash et l'entretien des sacrifices. Oui, mais vous comprenez que si vous ramenez aujourd'hui sur le mont du Temple et que vous construisez votre Beth Amikdash, il est immédiatement détruit par la police. Sans parler de l'onde que ça va porter dans la communauté internationale. Ce qui veut donc dire que pour construire le Beth Amikdash, il est nécessaire également qu'il y ait une transformation des mentalités. C'est-à-dire, c'est l'invitation à une évolution de la civilisation qui fait que ce qui aujourd'hui a l'air complètement, disons, exotique, deviendra quelque chose de totalement évident. Par exemple, le fait de, je ne sais pas, de sacrifier des bêtes. Ce n'est pas la manière de servir Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait la prière, par exemple. Mais parce qu'on a perdu le sens de la solidarité entre l'homme et l'animal. Mais l'homme et l'animal font partie d'un seul et même organisme, qui est le monde entier, qui est le cosmos tout entier. Et donc, tant que la conception qu'ont les hommes de la réalité n'a pas changé, le Beth Amikdash ne peut pas être construit. Non pas parce que ce n'est pas un commandement, c'est un commandement positif. Mais il nécessite justement la rencontre de tout le monde et probablement également l'intérêt des nations. Viendra un jour où les nations viendront nous dire « Mais pourquoi vous n'avez pas encore construit ?» On l'attend, ce moment justement de rencontre entre Dieu et le monde. Alors, pourquoi vous ne le faites pas? Vous comprenez qu'en fait, il y a un hiatus tel entre ce que le Beth Amikdash est et ce que les hommes comprennent, qu'il y a de quoi effectivement être découragé. Ce qui ne fait que rajouter à nos lamentations le jour de Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, dans lequel nous nous lamentons pour la destruction du temple. Mais tout cela veut dire que nous n'avons pas perdu l'espoir. Nous avons la confiance que l'humanité va évoluer et qu'à travers le Beth Amikdash, il y aura un lieu de rencontre de l'ensemble des esprits de l'humanité. Et ça sera donc le lieu de la prière de toutes les nations, le lieu de la paix universelle. Maintenant, je pense qu'il serait utile, c'est comme ça que m'a dit David Altar, hein, de laisser de la place à des éventuelles questions de la part de nos chers auditeurs. Alors voilà.
Je te dis ça, il faut la répéter.
Alors voilà. Donc, ce que va faire David, il va me citer la question que je vais répéter et à laquelle je vais essayer de répondre.
Question de Emmanuel Kalfa. Shalom Arabe. La guicha du Rav qui est de l'Etamek de la et l'Etamek de la question de monter sur le mont du temple est connue. La question est l'Etramek. Pourquoi le Rav est l'Etramek et ce ne serait pas le moment comme le Rav l'enseigne avec modération de l'état de Narshon Ben Aminadab de l'Ivroir Ovdot.
Bon, alors je reprends ici, dans mes mots à moi, de la question d'Emmanuel Kalfa. Ma position est connue pour ce qui est à propos de l'ascension sur le mont du Temple. Est-ce que je suis pour ou contre? Et ma position habituelle est d'esquiver la question. Alors, ne serait-il pas temps de cesser d'esquiver et de faire un saut à la manière de Narshon Ben Aminadav qui saute dans la mer et qui l'ouvre? Eh bien, la réponse, c'est que je suis très net dans ma position. Je pense que je m'esquive. J'esquive la réponse. Voilà. Suite.
Question de Jonathan. Mais si le temple amène le huitième jour dans le septième, est-ce que le neuvième sera présent en son sein quand nous serons dans le huitième jour?
Ah, si le temple, c'est le huitième jour dans le septième, est-ce que lorsque nous serons dans le huitième jour, est-ce qu'il y aura une manifestation du neuvième dans le huitième? Oui.
Alors, il y a deux, trois questions sur l'universalité du temple.
Oui, l'universalité du temple. Quelle est la question?
Est-ce que c'est pour que les juifs?
Est-ce que le temple, ce n'est que pour les juifs? Ça prouve que celui qui a posé la question l'a fait avant d'arriver dans la dernière partie de mon cours, dans laquelle j'ai expliqué que le temple a une finalité universelle. D'ailleurs, c'est le roi Salomon lui-même qui l'a dit dans la prière d'inauguration du Beth Amikdash. Il a dit « Viendra un jour où un étranger viendra des coins de la terre t'invoquer dans cette maison et tu exauceras tout ce qu'il te demandera. » Je pense que c'est une évidence.
Et ben c'est moi.
Eh bien voilà, merci beaucoup à tout le monde. Et merci à toute l'équipe généreuse qui a participé à cette émission. Et que nous nous revoyons bientôt dans la prochaine émission qui aura lieu dans le temple de Jérusalem. Shalom.